Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Père Jean-Marie Miquel.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour cette série d'entretiens dans Des clés pour vivre. Des clés pour vivre, vous avez su trouver ces clés pour vivre et survivre après ces épreuves de la maladie que vous nous avez relatées lors du premier entretien hier. Vous n'êtes plus dans la survie, vous vivez aujourd'hui, tout court.
Aujourd'hui, je peux le dire, c'est une nouvelle vie. Pour moi, parce que cet événement qui a été un véritable tsunami pour moi, il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, j'ai plus que le sentiment, la conviction, je ne sais pas comment le dire, que voilà, c'est une nouvelle vie pour moi, avec... je dirais, une perception de ce qui est essentiel et puis de ce qui est finalement secondaire, voire accessoire et futile. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très très simple. Je me dis tous les jours, ce qui compte, c'est que tu saches ouvrir ton cœur, aimer ce que tu rencontres, aimer ton prochain, et puis prier... avec tout cela, dans la célébration de l'Eucharistie, dans l'adoration, dans la prière personnelle, aimer le Seigneur, c'est tout simple.
Un homme nouveau, un prêtre nouveau dans son sacerdoce, une expérience qui a transformé votre sacerdoce, cette épreuve grande de la maladie, puisque vous avez failli mourir.
Oui, ce sont les médecins qui me l'ont dit, puisqu'ils avaient un peu perdu espoir que je m'en sorte. Et voilà, je suis là. Si je suis là, c'est grâce à la médecine, c'est grâce à la chirurgie. Je crois que c'est grâce aussi à l'immense chaîne de prières pour moi. Et je suis convaincu que Dieu, la Vierge Marie ont agi à travers les médecins, à travers les chirurgiens, et que c'est les prières, la chirurgie, la médecine qui m'ont remis debout.
Et le prêtre a été remis debout.
Après être tombé.
Tombé, ouais, permettez-moi.
Par terre.
Vous me disiez en préparant ces différents entretiens pour cette émission, je ne célèbre plus comme avant l'Eucharistie. Est-ce que vous pouvez peut-être partager à nos auditeurs et aller plus loin dans cette célébration aujourd'hui de la messe?
Oui, je vais essayer de vous le partager simplement. C'est difficile, mais oui, c'est vrai, je ne célèbre plus l'Eucharistie comme avant. Je crois que je suis devenu plus attentif à ce que je célèbre. C'est vrai que quand je tiens le corps du Christ dans mes mains, c'est quelque chose qui est très fort, très, très, très profond et auquel je prête davantage attention. Peut-être que dans ma manière de célébrer l'Eucharistie, il y a moins de routine et d'habitude. Voilà.
Parole vraie.
Je crois.
Sincère, authentique.
Je crois, sinon je ne
le partagerai pas. Il peut y avoir ce risque dans la vie sacerdotale du prêtre, de la routine, dans la célébration de l'Eucharistie.
Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que je me rends compte que c'est la célébration de l'Eucharistie quotidienne ou quasi quotidienne, on peut tomber facilement dans l'habitude et dans la routine. Et je crois que j'y étais parfois tombé, sans peut-être m'en rendre compte.
Donc la routine de la célébration de tout sacrement.
Oui, oui, et qu'il faut faire très attention là-dessus, parce que c'est pas facile de ne pas tomber dans l'habitude et la routine quand on célèbre l'Eucharistie tous les jours. Et je crois que cet événement m'a aidé.
L'événement de la maladie.
Oui, cet événement de la maladie m'a aidé à faire attention à ce que je fais. Et en particulier dans la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements aussi.
Et au fond, cette maladie, en vous écoutant, ou bienheureuse maladie, qui peut-être vous a fait sortir, réveiller dans votre sacerdoce d'une forme peut-être de ronronnement
oui.
De tiédeur.
Oui.
Peut-être pas de tiédeur, permettez-moi,
oui.
Mais de ronronnement.
Oui, je crois pouvoir le dire. Je ne dis pas que le ministère de prêtre que j'avais avant d'être malade n'était pas ne portait pas des fruits. Je crois que j'exerçais mon ministère
avec générosité,
de mon mieux, avec certainement de la générosité, et le Seigneur a agi à travers tout cela. Mais c'est vrai que l'événement de la maladie m'a fait découvrir cette dimension du ministère du prêtre, qui est une dimension de profondeur. C'est difficile à dire et je ne voudrais pas être prétentieux en disant ça, mais c'est vrai, c'est comme ça que je le ressens et que j'essaie de le vivre. J'ai l'impression qu'il y a, depuis cet événement de la maladie, une source d'eau vive qui jaillit en moi, qui voilà, un peu comme je pense à la Samaritaine et à la source d'eau vive du puits de la Samaritaine.
Célébration de l'Eucharistie et aussi peut-être votre manière aussi de prêcher. Est-ce que vos prêches se sont transformées après cette épreuve de la maladie? Donc il y a le prêtre avant et le prêtre après qui célèbre et fait ses prêches. Ça s'est transformé aussi?
Je dirais que je suis plus attentif aux paroles que je dis dans les homélies. C'est-à-dire que je suis plus conscient que voilà, ce que je dis, c'est pas simplement des mots, mais que ce que je dis, c'est ça doit être et c'est et ça devrait être, ça doit être et c'est la réalité concrète du Christ qui vient me sauver. C'est le Christ qui vient me sauver, parce que le premier concerné par l'homélie qu'il donne, c'est moi, c'est le prêtre. Et donc, maintenant, je me pose toujours la question, quand je prépare un peu une homélie, attention, ce que tu vas dire là, est-ce que tu le vis? Est-ce que pour toi, c'est un appel à te convertir, à changer, à bouger, à te remettre en question? Et c'est ça qui me préoccupe, voilà, et auquel je fais davantage attention.
Au fond, c'est votre vie entière qui a changé.
Oui, et puis l'homélie, c'est l'actualisation de la parole de Dieu. Et je suis plus attentive au fait que dans une homélie, je n'ai pas à instrumentaliser la parole de Dieu pour donner une leçon de morale ou pour faire de la doctrine. C'est pas ça. C'est cette parole de Dieu, eh bien, voilà, elle est pour moi, elle vient me bousculer et c'est ça que je dois essayer d'exprimer dans l'homélie. Hier, par exemple, eh bien, Jésus dit à la synagogue de Nazareth, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Eh bien, c'est tout à fait ça.
C'est un changement radical un peu. C'est un temps de conversion pour vous dans votre vie d'homme et puis votre vie tout court de prêtre.
Mais
après, c'est une transformation.
Je suis dans un état de conversion permanente. Et je crois que je ne fais que commencer.
Donc le prêtre n'est pas le super-héros?
Oh, pas du tout, non. Pas du tout, parce
que... Il a sa faiblesse et ses fragilités, ses vulnérabilités.
L'événement de la maladie m'a aidé à mieux me regarder moi-même. Non pas dans une attitude nombriliste ou une attitude de culpabilisation, mais la maladie m'a fait voir mes faiblesses, mes limites, mon péché, mais dans une attitude de repentir et de conversion, pas dans une attitude de culpabilité. Parce que je sais que le Seigneur est venu me chercher, moi qui étais le blessé, là, qui était au fond du fossé, pour faire allusion à la parabole du bon samaritain. Et voilà, et on est venu me tirer du fossé. Ceux qui sont venus me tirer du fossé, ce sont les médecins, les soignants, tous ceux qui se sont occupés de moi.
Alors, merci pour ces paroles que vous nous donnez encore aujourd'hui, et vous nous rendez témoignage d'une épreuve traversée, celle de la maladie, dans votre vie d'homme et puis dans votre vie sacerdotale. Une bienheureuse épreuve qui vous ressuscite, en quelque sorte. Alors, cette résurrection, on va la voir jour après jour, et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, Père Jean-Marie Miquel, demain, à la même heure. À demain.
Salut. Thank you.